RJB 12h15. Le journal Alexandre Michler.
Bonjour à toutes et à tous. L'ancienne école primaire de La Hutte va à nouveau prendre vie. Elle deviendra dès la rentrée d'août l'école de la clé grâce à la fondation YouCount. La structure offrira un encadrement spécialisé à des élèves en difficulté. Présentation dans un instant. Les arnaques téléphoniques aux faux policiers prennent une nouvelle dimension dans le canton de Berne. Une habitante de Könitz a été victime d'un malfrat, mais c'est le numéro officiel de la centrale téléphonique de la police bernoise qui a été utilisé. Explication dans ce journal. Et puis en sport, nous vous ferons vivre un entraînement particulier aujourd'hui, celui du club de football de table Jurassic-Land. Les joueurs se préparent pour le championnat suisse qui aura lieu ce week-end à Saint-Imier. Anthony Montandon a assisté aux préparatifs dans les locaux du club à Courtelary. Reportage à la fin de cette édition. Le ciel sera toujours nuageux et pluvieux cet après-midi, mais quelques éclaircies seront possibles. Le mercure ne dépassera pas les 13 degrés au maximum. Une embellie est prévue pour demain et ce week-end, même si quelques gouttes resteront possibles. L'ancienne école primaire de La Hutte devient donc l'école de la clé. La fondation YouCount, qui la chapeaute, s'installera dans les locaux à la rentrée d'août 2025. La nouvelle structure offrira un encadrement pédagogique spécialisé à des élèves en rupture scolaire ou qui ont des difficultés relationnelles. Si une école de la fondation YouCount existe déjà à Vauflin et à Peterlen, eh bien l'ouverture du site de La Hutte permettra d'augmenter le nombre de prises en charge. Mais peut-on dire pour autant qu'il y a plus d'élèves en difficulté qu'ailleurs dans la région? La réponse de la directrice Monia Koenig.
Alors non, pas du tout. En fait, on était en recherche de lieux pour ouvrir la structure à Vauflin l'année passée. Et on a trouvé une ancienne ferme complètement rénovée à Vauflin. Par rapport à La Hutte, l'école était vide depuis quelques années et on s'est approché du conseil municipal à La Hutte pour voir si c'était possible de louer les bâtiments et d'agrandir l'école de la clé. Parce que l'école de Vauflin accueille actuellement 15 élèves et c'était impossible d'avoir plus d'élèves dans ce lieu vu qu'on va passer à 36 élèves à la rentrée d'août.
Et que va devenir le site de l'école de Vauflin?
Alors, il va continuer de fonctionner et on a décidé de mettre le parcours de l'école secondaire, donc les 9, 10, 11 H vont rester sur le site de Vauflin. Et puis, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seront sur le site de La Hutte.
On a des propos recueillis par Céline Roduit. Dès la rentrée scolaire 2025, l'école YouCount, la clé de La Hutte, se calquera donc sur les horaires scolaires habituels pour éviter le trafic au sein du village. Les élèves seront pris en charge tous les jours depuis leur domicile jusqu'à l'école, aller-retour. Et ce, par un véhicule affrété spécialement pour eux. Attention aux appels frauduleux qui impliquent de faux agents. La police bernoise appelle une nouvelle fois la population à la prudence. Elle a été informée d'un cas qui s'est produit mercredi, c'est pas la première fois, sauf qu'il semblerait que les malfrats utilisent de nouveaux procédés, Séverine Boé.
Une habitante de la commune de Könitz a eu un coup de fil un peu particulier. Dans un premier temps, un auteur inconnu s'est présenté au téléphone fixe comme étant un employé de la banque cantonale suisse, affirmant qu'une transaction frauduleuse était en cours. Peu après, une deuxième personne, prétendument un policier, a appelé en utilisant le numéro officiel de la centrale téléphonique de la police cantonale bernoise. L'habitante a immédiatement mis fin à l'appel et s'est rendue dans un poste de police.
Et ces dernières semaines, la police cantonale bernoise a déjà enregistré une recrudescence de cas d'appels téléphoniques frauduleux sous les formes les plus diverses. Séverine, vous nous rappelez quelques conseils pour éviter de se faire avoir.
Soyez méfiant face à des inconnus qui tentent de vous convaincre, par exemple, de retirer de l'argent liquide, de déposer des cartes bancaires ou des objets de valeur. Ne donnez aucun mot de passe ou information sur votre situation financière à des inconnus par téléphone ou en personne. La police ne demande jamais de carte bancaire ou de code PIN. Mettez fin à la conversation téléphonique, raccrochez et signalez l'appel suspect à la police. Enfin, parlez-en aux personnes âgées de votre entourage et faites passer la mise en garde.
Merci Séverine Boé pour ces précisions. La ville de Bienne va élaborer un concept pour mieux gérer le trafic individuel motorisé. Elle souhaite améliorer la gestion des flux de circulation et faire face aux défis tels que embouteillage aux heures de pointe, nuisances sonores, qualité de l'air ou encore sécurité des usagers. Pour y parvenir, elle va donc élaborer un concept pour le TIM, le trafic individuel motorisé, dans la continuité de la stratégie globale de mobilité 2018-2040. Le conseil municipal a approuvé à cet effet un crédit de 140 80 000 francs, a-t-il fait savoir ce matin dans un communiqué. Les résultats sont attendus pour 2026. Bienne, ville pionnière du cinéma en Suisse. Voici l'histoire qu'on retrouvera dans la prochaine édition de la revue Intervalle. Le vernissage du numéro 131 a lieu ce soir au Film Podium à Bienne. De l'histoire des premiers cinématographes ambulants au cinéma Métropole à la rue de Nidau et à l'avènement du son et de la couleur, eh bien le 7e art va raconter son chapitre biennois au travers des pages de la revue. Jean-Marie Hautet, vice-président du comité de la revue Intervalle, il nous raconte dans quel contexte ce thème a été choisi.
On a publié un numéro il y a une trentaine d'années, le numéro 55, qu'on avait consacré au cinéma, qui était alors un numéro beaucoup plus léger, qui a été allé beaucoup moins en profondeur, qui faisait un peu un... C'était pas un catalogue, mais un petit tour des cinémas encore existants dans la région. Moi, j'ai trouvé que c'était passionnant de parler de ça, parce qu'à Bienne, quand on se promène, on voit bien qu'il y a encore des bâtiments spécifiques. On a parlé du Métropole. Moi, j'ai pas connu le Métropole en tant que tel. J'ai connu la Boucherie Belle à la rue de Nidau. Et bien là, en fait, c'était un cinéma. Mais quand moi, j'allais à la boucherie avec ma maman, je savais pas que c'était une fois un cinéma.
Il y a quoi maintenant à la place ?
Il y a eu le métro, le magasin d'habits. Le fameux métro qui est maintenant, je ne sais plus, à la rue du Canal. Mais si vous regardez en dessus, si vous levez la tête juste en dessus du rez-de-chaussée, vous avez encore des effigies sur la façade, des têtes qui sont issues du théâtre grec. Donc qui montre bien que là-dedans, il y avait dans ce bâtiment du spectacle.
Un propos recueilli par Josette Sédou, 17 spécialistes du cinéma ont réuni leur savoir pour la création de ce numéro de la revue Intervalle. On y retrouve aussi l'implication de la Guilde biennoise du film, active depuis 75 ans à Bienne. Et puis d'autres institutions locales et deux festivals internationaux retracent aussi la passion biennoise pour le cinéma. Manga, cosplay, jeux vidéo, culture japonaise, le Forum de l'Arc à Moutiers s'apprête à vibrer au rythme de Shonen Pop Festival. Après une première édition réussie, l'événement revient ce week-end pour une deuxième édition encore plus riche. Claudia Maillot est l'une des organisatrices de la manifestation, elle nous présente les nouveautés.
Pour cette année, on aura des guests qui seront présents. On aura un stand jeux vidéo encore plus grand, que les gens puissent venir jouer gratuitement le temps qu'ils souhaitent. Et puis, on aura aussi des food trucks.
Vous avez décidé de changer d'endroit, de changer aussi le nombre de jours. On était à un jour l'année dernière, deux cette année. Qu'est-ce que ça vous apporte en plus, tous ces changements-là ?
Autant les exposants que les visiteurs, ils ont dit qu'un des points négatifs l'année passée, c'était que l'endroit il était trop petit. Parce qu'on s'est retrouvés à un moment où il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors on s'est dit, pourquoi pas essayer de voir un petit peu plus grand.
Voilà, Claudia Maillot qui répondait à Sven Borua. On rappelle que le Shonen Pop Festival, c'est ce week-end, à Moutier, au Forum de l'Arc. L'école est une compétence cantonale en Suisse, mais elle doit être harmonisée. C'est un article de la Constitution fédérale qui l'exige. Et bien pour tester cette harmonisation, la CDIP, la Conférence des ministres cantonaux de la formation, a organisé un test. Elle a mesuré les compétences fondamentales des élèves de 11e année dans leur langue maternelle et les langues étrangères enseignées à l'école. Et les résultats sont en demi-teinte. Seulement 41% des élèves romands atteignent les compétences fondamentales requises pour l'apprentissage de l'orthographe en français. Ce taux est de 84% pour l'allemand dans les écoles alémaniques et de 77% pour l'italien au Tessin. Le résultat est particulièrement bas dans le canton de Neuchâtel qui enregistre un taux de 36%. Viennent ensuite Berne, 37%, Vaud, Genève, 40%, Fribourg, 42%. Le canton du Jura enregistre le meilleur résultat avec un taux de 50%. Alors faut-il s'inquiéter de ce résultat ? Question posée au président de la CDIP, le conseiller d'État valaisan Christophe Darbelay.
Il ne faut pas relativiser ce résultat, mais le test était quand même très particulier avec des choix multiples qui duraient 10 minutes pour 30 questions. Je pense qu'il a pu perturber les élèves et que ses résultats s'en ressentent un tout petit peu. Mais c'est vrai que l'orthographe, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde de TikTok, des réseaux sociaux, dans le monde où on est beaucoup moins confronté au texte, à la production écrite, eh bien, la problématique de l'orthographe est une vraie problématique. On doit travailler encore plus. La dictée reste un instrument important. Il faut se poser la question aussi de corriger sans pouvoir compter pour la note, mais dans les autres disciplines, si vous faites de la géographie ou de la science, eh bien les fautes d'orthographe et de grammaire, ça apprendra aussi aux élèves que l'orthographe, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas pour ça que vous allez rater votre vie. Mais par contre, on peut très rapidement se fermer des portes dans le monde professionnel, de la formation ou alors dans les études si on ne maîtrise pas l'orthographe.
La hausse des primes de l'assurance maladie devrait se poursuivre en Suisse l'an prochain. Comparis prévoit une augmentation de 4% en moyenne. L'Institut a publié un communiqué en ce sens ce matin. Selon Comparis, l'augmentation est à mettre en regard avec des coûts de la santé attendus en hausse de 3,7%. Et puis à l'étranger, deux employés de l'ambassade d'Israël aux États-Unis ont été tués par balle hier soir aux abords du musée juif de Washington. Donald Trump a condamné des meurtres horribles motivés par l'antisémitisme. Un homme de 30 ans suspecté d'être l'auteur des coups de feu a été appréhendé. Il a scandé « Libérer la Palestine » lors de son arrestation.
RGB, il est 12h26, Alexandre Michler, on s'en va sur les patinoires internationales.
RGB, sport.
Et un an après avoir ramené l'argent de Prague, l'équipe de Suisse veut à nouveau jouer pour les médailles au championnat du monde de hockey sur glace. Dernier obstacle sur la route des demi-finales, l'Autriche, que la troupe de Patrick Fischer affronte en quart cet après-midi à Herning. Un adversaire sur le papier abordable, puisque les Autrichiens retrouvent ce stade de la compétition pour la première fois en 31 ans. Mais pas question pour autant de prendre cette rencontre à la légère. Yann Cadieux est l'entraîneur assistant de l'équipe de Suisse.
On regarde ce qui s'est passé dans le premier tour. Je pense que la Suède, ils ont battu l'Autriche dans les trois dernières minutes de leur match. Le Canada, c'était 1-1, je pense, jusqu'à la 41e minute ou même au début du troisième tiers aussi. C'est une équipe depuis deux ans qui joue un beau hockey, qui a de très bons joueurs. À la fin, ils profitent un peu de la Ligue suisse aussi avec certains joueurs qui jouent en Suisse. Ça serait une grande erreur de sous-estimer cette équipe-là. Si elle est en quart de finale, c'est parce qu'elle joue bien et elle le mérite, et encore une fois, on ne va pas se concentrer sur eux, on va se concentrer sur nous et ce qu'on doit faire pour pouvoir aller à Stockholm.
Ce quart de finale du championnat du monde entre la Suisse et l'Autriche sera lancé à 16h20 à Herning, au Danemark. En football, Murat Yakin a convoqué un néophyte pour le prochain rassemblement de l'équipe de Suisse. Il a en effet retenu le milieu de terrain Johan Mozambi, 19 ans, qui évolue en Bundesliga avec le SC Fribourg. A noter que Xherdan Shaqiri ne figure pas dans la sélection. Ils affûtent leur dernière technique avant ce week-end. Les joueurs du club de football de Table, Jura Seeland, se préparent pour le championnat suisse. L'événement qui se tient samedi et dimanche à Saint-Imier. Eh bien, nous avons eu l'occasion de faire connaissance avec ces disciplines dans la matinale cette semaine. C'était lundi. Et après la théorie, eh bien, place maintenant à la pratique. Nous nous sommes rendus à un entraînement du club dans ses locaux de Courtlary. Environ une dizaine de membres étaient présents pour l'occasion. Reportage en compagnie de Cyril Amé, le président du CFT Jura Seeland. Il nous explique comment les joueurs se préparent.
Mon premier schéma d'entraînement, c'est répéter les gestes très doucement, très lentement, pour vraiment me mettre la coordination main gauche, main droite dans la tête, et par la suite accélérer un petit peu plus vite pour finir à être à plein régime au niveau de mes mouvements. Et ensuite, une fois que mon schéma il est prêt, je fais typiquement le passage que je vais faire dans un match. Après, j'estime que quand j'en fais 5 propres de suite, je suis dans le bain. Une fois que j'ai fait les 5, je prépare l'avant. On fait le geste doucement, lentement, histoire d'être très précis dans le tir. Et ensuite, on peut aller un peu plus vite. Donc typiquement, je fais ça, je bouge.
Mais j'imagine que sur un entraînement comme ça d'une heure, rien que cette phase-là, pour se calibrer comme ça, ça peut prendre presque l'entier de l'entraînement, non ?
Ça, c'est tout à fait juste. Ça dépend un petit peu ce que je prépare. Par exemple, moi, si je joue ce soir, on est beaucoup, on va faire du double. Donc, je vais me préparer un petit peu au tir. Donc, je viens là, je vais essayer de le faire un peu plus rapide. Donc, ensuite, après, on prépare l'arrière.
Voilà. Les poignets sont quand même sollicités. Est-ce que vous échauffez aussi les poignets, justement ? Je vois que vous avez une bande à droite, par exemple.
Typiquement, Thibaut lui sort de blessure.
Ouais, exactement.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai fait le mouvement pendant 4 heures de temps, un mouvement de la main gauche, des passes, des 2 au 5. Et je pense qu'à force, le bras, il a crispé. Et voilà, une tendinite.
Vous avez fait le même mouvement pendant 4 heures, vous avez dit ?
Plus ou moins.
En fait, il n'y a pas, comme dans un club de foot classique, entre guillemets, un entraîneur qui est là et qui dit ce soir, on va entraîner ceci.
Non, c'est vrai, on n'a pas de coach. Chaque joueur essaye de trouver un peu sa technique, puis chacun choisit. Et là aussi, quand on voit un joueur qui essaye quelque chose et qui n'y arrive pas, on voit qu'il a peut-être un feeling avec un mouvement plutôt qu'un autre. Ben là, on lui dit, travaille plutôt ta technique là-dessus, plutôt que de te forcer à faire comme moi ou comme Thibaut si lui, il a un autre feeling. Estimer que je suis chaud. Alors, on demande qui c'est qui veut faire un double.
Là, les équipes, c'est qui et qui?
C'est Thibaut et Simon
contre Ivan et Cyril.
On a ce qu'on appelle un protocole pour commencer le jeu. On doit toujours commencer par le milieu, les 5. Et dans le jeu, vous verrez, ils demandent prêt. On joue normalement le départ à pile ou face, au tir au sort, l'engagement. Donc c'est pile, c'est à nous la balle.
Prêt.
Donc là, pas un mot hein, pendant le match, on a vraiment... C'est une faute carrément ?
Parler pendant une balle, quand la balle est en jeu, quand elle est en train de se déplacer, c'est une faute. La balle va revenir à l'adversaire.
Du coup, si vous ne parlez pas pendant la phase de jeu, après coup, il y a à chaque fois un débrief, j'imagine.
On a 2 time-out par manche pour pouvoir dire quelque chose à notre coéquipier, s'il faut qu'il change son jeu ou des choses comme ça.
Et à un moment, pour progresser, ce qu'on a fait, on observe aussi nos matchs. On a eu fait pendant un moment, on s'est filmé aux entraînements. Donc là, la partie est terminée, on se serre la main, on dit bravo, bien joué.
Voilà, nous étions à un entraînement du club de football de table Jurassic-Land à Courtelary en compagnie de son président Cyril Amé. C'était un reportage d'Anthony Montandon et on vous rappelle que le championnat suisse se tient ce week-end à Saint-Imier. Notez que les 2 finalistes de cet événement auront l'occasion de se qualifier pour l'European Champions League 2026. 12h31 sur RJB, la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi.
RJB Sport.